5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance en France.
900 divisé par 52 égale un certain nombre d'années et de semaines d'activité ininterrompue pour le Café Philo de Montpellier. Des organisateurs intervenants du café seront avec nous dans 5 minutes pour parler de ce Café Philo 900e du nom qui a lieu demain au Dôme à 20h30. Et le Café Philo de Montpellier qui, à défaut d'être le plus ancien en France, est le seul à n'avoir connu aucune interruption en 17 années. Côté culture, on ira faire un tour à Pézenas puisque le Printival 2013 s'y déroule à partir du 24, c'est-à-dire demain. Extrait d'une émission animée par Adrien Delgrange de Radio Pays des Rots dans laquelle il recevait Dany Lapointe, co-directrice artistique du Printival et petite fille de Bobby Lapointe. Comme chaque année, sous l'égide de nos confrères de la vallée de l'Hérault et avec la complicité de Radio Saint-Taf et Air d'Otan, une émission d'une heure sera enregistrée en public à partir de mercredi jusqu'à samedi, puis diffusée sur les radios partenaires. Pour ce qui vous concerne, auditeur du 93.9, ce sera le lendemain à 15h. Et puis, au téléphone, nous aurons Maïté Doligez, directrice du Festival international du film d'animation à Bayargues, qui se déroule du 24 au 28, pratiquement en même temps. Donc il faudra faire des choix cruciaux d'un côté et de l'autre de Montpellier. Court-métrage, moyen-métrage pour tous les âges et tous les horizons se succéderont donc à Bayargues, mais aussi des ateliers pour s'initier à l'art délicat de l'animation. Pour l'heure, c'est avec Eric Abadou qu'on part avec une philosophie du pénitencier à méditer.
Can't stand to see.
Erika Badou, pour cette auberge espagnole dans laquelle on va parler philosophie, le titre c'était Penitentiary Philosophy. J'imagine que la question de l'incarcération ou de l'enfermement a déjà été évoquée dans le Café Philo. C'est Aimé Mallet qui est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors demain, le 900e Café Philo.
Et oui, le temps passe.
Le temps passe, donc 900 divisé par 52, bon, ça fait 17, quelque chose.
Quelque chose, oui.
17 années d'activité ininterrompue. Oui, le fait est assez remarquable pour le souligner.
Oui, c'est unique en France, hein, puisqu'on est désormais le seul Café Philo à avoir fonctionné sans interruption chaque semaine, hein, je dis précise, chaque semaine, depuis 1996 ou 17, quelque chose comme ça, quoi.
Alors quand justement vous soulignez le fait que ce sont les participants du Café Philo qui sont le Café Philo, ceci explique peut-être cela, parce que quand il y a un grand timonier, comme vous le dites, bah, il suffit qu'il soit malade, qu'il se fasse porter pâle pour que peut-être les choses ne se fassent pas.
Absolument, c'est une orientation qu'on a pris assez tôt au Café Philo, d'avoir une animation collective. D'une part, donc il n'y a pas de chef, de responsable, de président, on n'est même pas structuré en association. Et donc, en tant que co-animateur, je dirais que l'angoisse du mercredi, puisque c'est le mercredi, c'est de me dire, y aura-t-il du monde ce soir? Et depuis 17 ans, il y a toujours du monde ce soir. Donc je me dis, le Café Philo, c'est peut-être des animateurs, mais c'est surtout les gens qui veulent essayer se coltiner à l'exercice de la pratique de la philosophie.
Donc là, on rentre justement dans une question de pratique de la philosophie. Certains n'entrevoient pas de le pratiquer autrement qu'en chair, avec des étudiants devant eux, enfin, d'une forme un petit peu académique et peut-être un peu désuète. Vous, au Café Philo, vous êtes là pour dire que non, la philosophie est l'affaire de tous, et que qu'on soit, on va dire, érudit ou pas érudit, ça n'empêche pas de poser une question philosophique d'importance.
À l'origine, la philosophie a été l'affaire de tous. Ça a été l'affaire de l'homme de la cité, dans la rue, sur l'agora. Et je ne sais pas, alors je vais peut-être en vexer certains de vos auditeurs, mais je ne sais pas si les professeurs de philosophie sont des philosophes. Ils enseignent la philosophie, ils enseignent des auteurs de la philosophie, mais la pratique de la philosophie conçue à la fois comme une thérapeutique, comme disaient les Grecs, hein, parce que pour eux, ça devait soigner les vains mots, les mots qui nous assaillent et qui nous paraissent importants et qui sont peut-être vains, à la fois thérapeutique, à la fois outil de connaissance. Ben, je pense que ce n'est pas nécessaire d'être forcément un professeur de philosophie. J'ai eu de très bons professeurs de philosophie, je les remercie. Mais le Café Philo, je dirais, c'est plus un atelier de philosophie. Voilà. L'aspect artisan me plaît.
C'est une construction en marche, en quelque sorte.
Oui, on marche depuis maintenant 17 ans. On marchera tant qu'il y aura des gens qui auront envie de se poser des questions, de douter, de gratter derrière les apparences, de sortir de la caverne de Platon, des choses comme ça. Donc, je pense que la philosophie a autant d'avenir que l'humanité en a.
Vous le disiez, ça permet de douter aussi. Est-ce que la philosophie, c'est non pas une école du doute, mais plutôt un moyen de vivre avec le doute, par opposition, on va dire, aux cosmogonies religieuses monothéistes qui disent non, on a les réponses, on sait que lui a fait ça ou qu'il va se passer ci ou ça.
C'est les deux, je pense, hein. C'est vrai qu'on vit dans une époque où quand on doute, ça génère une angoisse. Je crois que la philosophie est là pour enlever les angoisses. Il n'y a pas d'angoisse de la mort, l'angoisse de vivre, être tenaillé tout le temps par des souffrances et tout. C'est justement cet apprentissage lent et en commun, je précise bien en commun, ce n'est pas une réflexion sur soi-même, ça peut mener à ça, c'est sûr. Bon, ça passe aussi par ça. Mais c'est quelque chose qui, justement, en doutant de tout, permet d'accéder probablement à ce que... Alors, je vais dire un mot qui est vaste, à la sagesse, ça serait ça, je dirais. Ne jamais être inquiété par ce qui arrive, mais avoir du recul et un regard distant, mais avec des outils de connaissance, et c'est là que rentre en jeu la pratique de la philosophie, des outils de connaissance et la maïeutique, c'est-à-dire la discussion à plusieurs. On n'est jamais confronté seul à un malheur ou à un bonheur, on est confronté à plusieurs et on réfléchit à cette question ensemble. Donc le doute après devient un ami excellent et une arme redoutable.
La philosophie, ça se pratique aussi par la lecture, on va dire, des philosophes. Justement, dans le Café Philo, j'imagine qu'il y en a qui n'ont pas forcément lu beaucoup de philosophes, d'autres qui en ont lu beaucoup. Et est-ce qu'on trouve toujours les clés du dialogue entre les uns et les autres ?
Oui, parce que les grands auteurs, comme on dit, les grands classiques, sont les invités du Café Philo. Y a les personnes qui viennent, qui sont assureurs, maçons, je ne sais pas quoi, coiffeurs, ce que vous voulez. Et puis, au fil des discussions, on se rend compte que Pascal, eh ben, il a parlé du problème du divertissement, que Spinoza a parlé du problème de la beauté, que Platon a parlé du problème de la cité. Et donc, ces gens-là, ce sont nos amis, ils participent au Café Philo, ils sont conviés effectivement par des personnes qui ont lu peut-être plus que d'autres, ou mieux que d'autres, qui ont plus de mémoire que d'autres. Et je crois que c'est ça aussi l'enrichissement, c'est que montrer que la philosophie, c'est pas, ce sont des hommes d'abord, ce sont des philosophes. Il n'y a pas une philosophie monolithique, il y a plusieurs types de pensées, plusieurs méthodes. Et ces gens-là, évidemment, sont conviés. On n'est pas dans un atelier de philosophie en 2013 qui inventerait la philosophie. On n'invente rien. On apprend à pratiquer avec une caisse à outils, pour reprendre une formule à la mode d'aujourd'hui, une boîte à outils. On a une boîte à outils considérable, 2500 ans de réflexion.
Sur ces 17 années, est-ce qu'il y a eu des générations d'habitués du Café Philo qui sont venus puis qui sont partis? Et puis, est-ce qu'il y a des piliers, des gens qui étaient là au début et qui sont toujours là?
Alors, évidemment, il y a, je pourrais dire, un canal historique dont je fais partie. Donc il y a des animateurs qui... Ensuite, les animateurs, généralement, il y a une poignée, 5 co-animateurs qui se relaient au fil de semaine. Donc depuis 17 ans, moi qui ai vu ces 17 ans évoluer, je dirais que peut-être 50, 60 personnes se sont placées à la pose d'animateur, sachant que l'animateur, c'est quelqu'un qui un jour a été dans la salle et qui a dit « je voudrais parler, je voudrais faire ceci ». Donc... On devient animateur comme ça, quoi. La procédure est extrêmement simple. Quant au public, alors là, c'est extrêmement fluctuant. Tous les mercredis, on est un petit peu étonné parce que ça fluctue. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens un peu habitués. Je dirais qu'il y a 6-8 personnes qui sont des habitués. Puis les autres, ça dépend de la météo, du match de foot, de l'émission à la télé ou à Divergence FM. Donc voilà, ça, des fois, vous nous piquez des clients. Bon, tant pis, c'est comme ça. On n'est pas revanchard, on est là. Mais donc, le public évolue tout le temps. Et il a évolué dans le temps, bien sûr, sur 17 ans. Et il évolue encore constamment. On a des personnes qui arrivent, qui partent. Voilà.
Alors si, comme c'est le mercredi soir hein, au Dôme à 20h30, si on vous pique les auditeurs, c'est la faute à l'Agora des Savoirs, puisque on retransmet l'Agora des Savoirs à ce moment-là. Mais donc demain, 900e Café Philo demain, j'imagine que pour célébrer ce chiffre rond, vous avez lancé un appel à venir avec des choses à lire ou des choses, pourquoi pas, à chanter. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le menu des festivités de demain?
Alors, comme dirait l'autre, il y aura à boire et à manger. Hein, ça fait du bien, c'est comme les Restos du Cœur. Disons que demain, il n'y a pas de sujet particulier, si ce n'est qu'on va se réunir un peu à la méthode du banquet de Platon. Hein. On est là, effectivement, pour boire et pour manger. Donc, vous pouvez venir, même si vous n'êtes jamais venu. On accepte les pique-assiettes. Hein, au Café Philo, on n'est pas revanchard, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il va y avoir de la poésie, probablement, d'après ce que je sais. Il y aura des interprètes de qualité d'œuvres françaises, de chansons françaises qui seront là, qui vont interpréter, qui sont quasiment des professionnels, même s'ils sont peu connus, mais de très bonne qualité. Il y aura des textes philosophique. Tout le monde peut amener sa contribution. Alors certains contribuent aussi en amenant des morceaux de pizza ou une bouteille de rouge. Voilà, chacun amène son truc et puis ça sera une rencontre sympa pour préparer la 901e du Café Philo.
Voilà. Alors on précise, il y a des fois des thèmes qui sont proposés et puis des fois non.
Il y a toujours un thème proposé.
Il y a toujours un thème proposé.
C'est-à-dire,
d'accord,
le sujet est proposé un mois à l'avance par un vote majoritaire des gens qui sont là, qui proposent un sujet. On a 5 sujets, en gros. Les gens lèvent la main, on compte. Celui qui a le plus de voix, c'est le sujet qui est retenu. Donc, il n'y a pas de trou, sauf pour la 900e, où là, bon, on fait un break festif.
Est-ce que sur toute cette longue histoire, à la fin des Cafés Philo, est-ce qu'il y a une mémoire de tout ça qui est gardée? Est-ce qu'il y a peut-être pas des, comment on appelle ça, des actes, mais est-ce qu'il y a un petit bilan, quelque chose, quelqu'un qui aura pris quelques notes et qui aura un petit peu gravé ça?
Alors, les paroles s'envolent. Donc,
et les écrits restent.
Et les écrits restent. Alors, d'une part, il y a la discussion qui ne laisse pas de traces, si ce n'est dans les esprits des gens qui ont participé. Mais nous demandons à chaque personne qui propose un sujet d'écrire un court texte qu'on appelle un philopiste. On a inventé un néologisme brutal. Donc c'est une piste sur la réflexion. Donc chaque personne qui propose un sujet doit nous fournir un texte à 4 à peu près, un petit texte qui est diffusé une semaine avant le traitement du sujet et le jour même du sujet. Et donc effectivement, on a une collection maintenant de 900 textes qu'on n'a pas publiés, qui sont dans des archives numériques, hein, qu'on n'a pas publiés, mais tous les sujets ont fait l'objet d'un traitement écrit par l'auteur du sujet. Ça peut être à la disposition sur demande. On l'a jamais mis en ligne, donc voilà. Enfin, c'est en ligne en cours de route sur le site internet, mais c'est pas stocké dans des bouquins ni quoi que ce soit.
On rappelle que ce 900e Café Philo a lieu demain, mercredi 24 avril 2013 à 20h30 à la brasserie du Dôme. Et puis pour ceux qui veulent suivre vos pistes philosophiques, c'est philopiste au pluriel .blogspot.fr, philopiste au pluriel .blogspot.fr, à la ligne duquel on peut aujourd'hui lire un article du lundi 22 sur La nature humaine, une illusion occidentale, un ouvrage de Marshall Salins à lire absolument, dont on peut retrouver le texte intégral.
Tout à fait, c'est un livre qui est en libre consultation sur le net et l'auteur est un anglo-saxon qui a fait un travail remarquable sur la déconstruction du concept de nature humaine tel que nous, occidentaux, nous le voyons.
À lire absolument, peut-on lire sur philopiste.blogspot.fr, blogspot, n'importe quoi. Aimé Mallet, on vous remercie, on vous souhaite un très bon 900e et puis évidemment les 900 autres.
À la millième.
À la millième. On va se quitter à présent en partant en direction Pézenas avec un entretien proposé par Radio Pays d'Hérault, Adrien Delgrange pour ne pas le nommer, qui recevait la semaine dernière Dany Lapointe, co-directrice artistique du Printival et petite fille de Bobby Lapointe, le Printival qui se déroule du 24 au 27 avril à Pézenas.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle a vanille. À vanille et framboise sont les mamelles du destin.
C'est un festival de chansons françaises, 14e du nom, le Printival. Bobby Lapointe se déroule à Pézenas du 24 au 27 avril prochain et nous sommes avec Dany Lapointe pour en parler. Bonjour Dany.
Bonjour.
Et bienvenue. Un festival fidèle et Radio Pays d'Hérault d'ailleurs fidèle au festival, fidèle à ce style de chanson, mais à la fois assez diverse autour de la chanson française. Je vous cite comme ça les têtes d'affiche, les Ogres de Barbac sont programmés cette année, Raoul Petit, Lojo, Wally, Gérard Morel et bien d'autres, avec des concerts à midi, des émissions de radio, des printis découvertes à partir de 19h et puis tous les soirs à 21h des concerts, d'abord au Théâtre historique de Pézenas pour la première fois ouvert au Printival et puis sinon au foyer des campagnes communément appelé l'Olympia de Pézenas. Mais juste avant de présenter dans les grandes lignes cette 14e édition où d'ailleurs nous serons en ligne avec Wally et Zob en concert Place Gambetta en plein cœur de ville de Pézenas le samedi 27 avril. Et puis en fin d'émission, nous entendrons également Tisha Lapointe nous parler de ce que l'on pourrait appeler le off du Printival avec quelques rendez-vous proposés à la Bobiguette de Pézenas tous les jours à partir de 17h.
Mais elle m'a échappé, a pris du champ dans le pré, et je n'ai pas couru après, je ne voulais pas attraper une angevine de poitrine. Moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin.
Et pour commencer, Dany Lapointe, cette actualité, à savoir la 14e édition, vous avez voulu rester justement dans la continuité des éditions précédentes ?
Dans la continuité au niveau de l'esprit, ça, on n'a pas envie de le quitter, cet esprit familial, cet esprit généreux, cet esprit convivial, tout ça, le partage, la rencontre avec les artistes, ça, on veut le garder. Après, voilà, il y a des fois des couleurs un petit peu différentes d'une année à l'autre. Je crois que cette année, on est parti quand même sur des gros groupes. Chansons françaises un peu rock pour certains et qui ont tourné depuis longtemps sur ce qu'on peut appeler les têtes d'affiche du festival cette année, sur des voix particulières aussi, mais ça c'était pas fait exprès. On m'a fait remarquer qu'il y avait plein d'artistes masculins qui avaient des timbres de voix particuliers et graves et assez éraillés. Donc voilà, mais c'est pas toujours fait exprès ce genre de choses.
Voilà, et puis quand je dis aussi dans la continuité, c'est donc 2-3 locomotives, et puis vraiment donc de nombreux artistes moins connus, Julien Fortier, Presque Oui, Elsa Gelly, le Skeleton Band, Zob qu'on entendra tout à l'heure par téléphone, Evelyne Gallet, avec toujours donc cette volonté promouvoir les jeunes artistes.
Ça reste très très important de continuer à faire découvrir les artistes actuels au niveau chanson francophone parce qu'il y en a plein qui ont du talent et on a même plutôt l'embarras du choix qu'autre chose. Et de aussi poursuivre le travail qu'on fait auprès des artistes régionaux. Là, cette année, il y a quand même un tiers de la programmation qui est constituée par des artistes régionaux. Donc, c'est important pour nous de les accompagner, de les promouvoir, que le public puisse les voir, que les professionnels qui sont présents sur le festival puissent les voir et qu'on puisse même, pour certains, les accompagner au-delà de ça, quoi.
On s'intéresse à présent à la programmation du jeudi 25 avril avec Julien Fortier. Extrait.
Je te borde là, dans cette bouffée tranquille, et le soupçon n'est pas pour toi. Je te caresse encore et la promesse nocive de t'emmener boire un dernier verre, voir une étoile digne de ce nom dans la ville de lumière. Macadam, quid, quidam, si je longe une artère, vais-je trouver le cœur? Et si je me mets à l'envers, c'est un mirage utile. Laisse-moi finir ma blonde, mon mal t'est éventé. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Tu n'es pas si fragile et tes sourires se vengent. Quand parfois en cachette tu me sais imbécile, sur ton faune d'esthète que sillonnent les anges et qui me laissent en exil.
Julien Fortier en sextette en concert à midi le jeudi 25 avril. J'en profite pour dire d'ailleurs que ce sera les vacances, hein, les vacances scolaires.
Oui, tout à fait.
Pendant le printival Bobby Lapointe, si vous voulez venir passer du bon temps, flâner dans les rues de Pézenas. Avec donc toutes ces printis que l'on peut décliner, Dany Lapointe, peut-être nous préciser ce que vous entendez par printis fantasy dans ce festival.
Alors les printis fantasy, c'est tout ce qui se passe autour des concerts en fait, tout ce qu'on a envie de montrer, de développer, d'avoir des choses à faire toute la journée. Donc ce sont les expositions, ce sont les visites guidées musicales, ce sont les interludes de rue, ce sont des apéros thématiques aussi qu'on fait avant les concerts de midi, justement à 11h30 chaque jour, place Gambetta. Puisqu'on est au jeudi 25 avril avec Julien Fortier, juste avant Julien Fortier, à 11h30, nous aurons un apéro thématique qui va être un vrai spectacle poétique, en fait. C'est la cargolade de la Sagrada Familia d'Imoné. Donc, l'artiste d'Imoné avec sa famille, ses amis, qui vont nous
mettre le feu,
en effet, cuire les escargots. Et puis, dire des textes, de la poésie, c'est un petit moment de surréalisme à la Dali.
On enchaîne avec la programmation toujours et donc on décline à présent les printimômes, si on prend l'exemple du jeudi 25 avril 15h. Alors là, ça se passe du côté de l'illustre théâtre de Pézenas.
Voilà, on repart avec l'illustre théâtre pour les concerts jeunes publics. On en est ravis parce que c'est un petit écrin là-bas. Et donc le jeudi 25 avril à 15h, ce sera Geoffroy qui présentera son spectacle « Bienvenue sur la Terre ».
Pour les enfants de tous les âges ?
Geoffroy, c'est à partir de 5-6 ans, on va dire.
Avis donc aux amateurs, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Je le glisse à présent, hein, cette émission de radio, on vous donne rendez-vous au QG Bar chez Jean-Paul. C'est à l'entrée du cours Jean Jaurès, où depuis maintenant de nombreuses années, Radio Pays d'Hérault et d'autres radios du Grand Sud de la France qui vont relayer cette émission, et bien nous nous installons à la terrasse de ce café pour un rendez-vous privilégié avec les artistes du Printival qui viennent se livrer à notre micro et qui nous proposent des lives. Alors cette émission, elle sera diffusée sur Radio Pays d'Hérault à 18h et puis le soir également à minuit. Rendez-vous pour l'enregistrement tous les jours à 16h au QG Bar. Les Printiguettes, c'est à 17h. Nous en parlerons un peu plus tard avec Tisha Lapointe. Ça se passe au musée Bobby Lapointe. Et puis, on arrive à présent aux Printies Découvertes. C'est à 19h avec Presque Oui. Alors, virtuose, lui aussi de la guitare, tout comme Wally. Presque Oui, que l'on a pu voir déjà l'an dernier lorsqu'il est venu participer au spectacle « Comprends qui peut » d'Annie Lapointe.
Voilà, en fait, il est venu sur ce spectacle-là parce qu'il fait partie de cette joyeuse équipe. Et on ne l'avait jamais reçu avec son spectacle à lui. Et c'est vrai que ça manquait. On avait très envie parce qu'il a beaucoup de talent, ce jeune homme.
En duo, hein, en l'occurrence. Hein.
Oui, en duo avec un autre virtuose de l'instrument, du violoncelle et de la flûte, qui est Sylvain Berthe.
Avec donc là des tarifs 7 euros pour tous ces concerts à partir de 19h, c'est au foyer des campagnes. Le temps d'aller se restaurer, grignoter, notamment toujours des huîtres, Dany Lapointe.
Des huîtres, des sandwichs, des tartes, des plats chauds, tout ce qu'il faut.
Et du bon vin issu de la région. Et puis à 21h, cette fois-ci un nouveau co-plateau, From Enzil et Lojo.
Donc là, ce sera plutôt une première partie de la part de From Enzil. Donc From Enzil, c'est un duo également, piano et voix. Encore une voix très rauque et très suave de la part de cet artiste qui va chanter, qui va parler aussi, qui va être... Ça peut s'assimiler à du slam par moment. C'est plutôt dit que chanter, en fait. Et c'est quelqu'un qui est très touchant aussi, qui va avoir une espèce de puissance et de rudesse dans sa diction, mais qui est plein d'émotions également.
Ils sont de la région ?
Non, ils sont sur... Alors, il y en a un des deux, le chanteur, qui est originaire de Nîmes, mais sinon, ils vivent sur Paris.
From Enzil.
J'ai vu la mort, j'ai vu la vie, j'ai vu l'amour, je t'aime toujours et encore. J'ai vu ton corps, je te serre fort, je te fais la cour et puis je cours et je me sens plus fort. J'ai vu le temps, j'ai vu le moment où je ne pouvais plus me passer de ton parfum en me levant. J'ai vu la mer, j'ai vu la terre, j'ai vu avec toi ce dont un homme devrait être fier.
From Enzil en première partie de Lojo. Lojo, alors très connu et à la fois méconnu en fait, un groupe, je crois qu'ils ont créé il y a une vingtaine d'années dans la région d'Angers, emmené par Denis Péan. Et ils reviennent avec un nouvel album, Cinema El Mundo.
C'est ça, un très bel album. Ouais.
Qui a reçu donc des critiques dithyrambiques. Pourquoi les avoir programmés ?
Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu différent des styles qu'on a habituellement au Printival. Il y a un gros clin d'œil à la musique du monde. Mais voilà, ça fait partie des groupes de chansons. Voilà, si on ne veut pas se cantonner à de la chanson, qui sont importants, qui ont tourné depuis longtemps et qui ont aussi voilà, cette générosité, ce partage et qui véhiculent aussi des choses qu'on a envie de. Qui sont un petit peu ce qu'on véhicule sur le principal.
L'Occident mal famé a ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales. Je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le temps qui passe sans rien dire. Collectionner des abraxas, le baron samedi du carnaval. La Marseillaise en créole.
Lojo à l'instant avec un morceau extrait de leur dernier album Cinema El Mundo, magnifique album, vous pourrez voir donc leur concert. Ça se passe du côté de Pézenas ce jeudi 25 avril et c'est à partir de 21h, tarif 20, 15 ou 12 euros. Nous sommes avec Dani Lapointe, co-directrice artistique de ce festival. J'en profite avec toi peut-être pour parler. Donc il y a une politique à la fois de gratuité à certains moments de la journée. Et puis, comme tout dans la vie, il faut bien payer aussi les artistes. Et donc quelques concerts payants. Avec quelle politique tarifaire vous avez ?
On essaye d'avoir des tarifs qui s'adaptent au plus de monde possible et qui puissent permettre à tout le monde de venir. Donc on a des tarifs à 5 euros sur les printimômes l'après-midi, des tarifs à 7 euros sur les printis découvertes ou printis mises en bouche, comme on les a aussi appelés cette année. Et sur les soirées, voilà, on a une carte VIP, Very Important Printivalier, qui est à 15 euros, qui est l'équivalent d'une carte d'abonnement, en fait, qui permet d'avoir tous les concerts de 19h gratuits et des tarifs vraiment préférentiels sur les 21h, à savoir 12 euros le mercredi 24 et le jeudi 25 et 10 euros les 26 et 27 avril. Donc c'est vrai que voilà, on va de 20 euros en tarif maximum jusqu'à gratuit ou 5, 7, 10 euros. C'est des tarifs quand même qui sont abordables à beaucoup de monde.
Et on peut d'ores et déjà réserver ?
Bien sûr, donc on peut réserver, on a le bulletin de réservation qui est sur le site printivalbobilapointe.com ainsi que toute la programmation détaillée, les tarifs, des extraits sonores. Et on a donc au musée Bobby Lapointe aussi des bulletins de réservation à Pézenas pour ceux qui sont du coin et sinon une billetterie en place sur Fnac et Mock City.
Et puis un numéro de téléphone que je vous donne dès à présent, puis qu'on redonnera en fin d'émission, le 04 67 210 287, réservation et renseignements en ce qui concerne le Printival. Nouvel extrait donc de cette programmation avec le Skeleton Band en concert le vendredi 26 avril à Pézenas.
Sobre et marin, il faut chasser le pied-à-terre tôt le matin. Rasé de loin, marchant de tout le long, croiser des navires qui sont des voitures. Croiser des chevaux qui sont des montures. Avant d'être sobre et marin, il faut chasser le pied-à-terre tôt le matin.
froid on les appelle âmes sonneurs. Descendant les rues en gaine, en bouche, on les appelle âmes sonneurs. Descendant les rues en gaine, en bouche. Sobre et marin, il faut chasser la pied-à-terre tôt le matin, rasé de loin.
Le Skeleton Band, quelques mots sur ce groupe qui lui est né en région Languedoc-Roussillon, Dany Lapointe.
Oui, ça fait partie des groupes régionaux qu'on suit depuis un moment, qu'on a envie de défendre. Ils ont beaucoup de talent, ces trois garçons. C'est vraiment l'univers un peu cabaret. Ils ont été découverts au Printemps de Bourges. Voilà. Et ils chantent beaucoup en anglais. Mais ils ont quand même des chansons en français et je crois que pour le Printival, ils nous préparent un set un peu spécial où il y aura un peu plus de français que d'anglais. Donc voilà, ils s'adaptent. Mais c'est vrai que malgré voilà, le fait qu'à la base, on ne peut pas dire chansons françaises complètement, on avait vraiment envie qu'ils soient présents sur le festival parce qu'ils sont très talentueux, ils sont en préparation d'un prochain album. Voilà.
J'en profite également pour glisser cette information un peu destinée aux professionnels, mais à la fois qui peut donner aussi du sens à ce que vous faites au Printival, c'est-à-dire que vous accompagnez aussi les artistes régionaux et vous leur proposez aussi quelques rencontres avec d'autres organisateurs de festivals ailleurs en France.
Voilà, au niveau des artistes régionaux, on a vraiment envie de mettre l'accent, de les accompagner particulièrement. C'est pour ça qu'on en programme aussi pendant l'année sur des concerts en appartement, des printis à la maison, qu'on en programme également sur les concerts dégustation dans les domaines viticoles que l'on fait en mai, juin, juillet. Et qu'on organise cette année pour la première fois sur le festival des rencontres professionnelles où on a invité certains artistes chansons de la région plus les artistes qui étaient sur le festival parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont aussi besoin de coups de main, les artistes qui sont découverts sur le festival, à présenter leur travail aux professionnels nationaux et régionaux qui seront présents sur le festival.
Ça se passera où et quand ?
Alors, ça se passera le vendredi après-midi, le vendredi 26 avril à 16h, à partir de 16h, au Théâtre Historique.
Et on s'intéresse à présent à cette soirée donc du vendredi 26 avril avec Raoul Petit et Sarah Olivier. Raoul Petit qui était déjà venu.
Alors, il était venu il y a longtemps, un été, quand on faisait des concerts l'été au Théâtre de Verdure à Pézenas, en effet.
Concert mémorable, car déjanté, c'est le moins que l'on puisse dire, de Raoul Petit. Là, vous vous faites plaisir, vous voulez toucher un public particulier.
Les deux, on se fait vraiment plaisir. En fait, on attend tous le festival avec impatience, mais on se fait vraiment plaisir aussi là-dessus, sur le côté, ben voilà, groupe, c'est un des plus anciens groupes de rock français, c'est complètement déjanté. Sarah Olivier est complètement déjantée aussi, je trouve que ça ira très très bien ensemble. C'est la soirée un petit peu à côté.
Ils ont une actualité particulière là, ces deux artistes, Sarah Olivier et Raoul Petit.
Alors, Sarah Olivier est en préparation d'un album qui devrait sortir très prochainement, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et Raoul Petit, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti l'album Yes Future.
2010.
Voilà, il n'y en a pas, à ma connaissance, j'en ai pas qui se prépare.
Extrait de Sarah Olivier, on met à l'honneur cette artiste. Qui partagera donc le plateau de Raoul Petit le vendredi 26 avril, 21h. C'est à Pézenas.
Au fond de mes nuits, je fume. Au fond de mes nuits, je fume. Au fond de mes nuits, je fume. Petit bruit, je fume. Petit bruit, je fume. On frappe à ma porte. On frappe à ma porte. On frappe à ma porte. Yeah. cachotière qui crache son venin. Cachotière qui arrache son velours. Cabriole de larmes qui coule. L'aile blessée par le silence. J'ai un blues un peu louche, un murmure qui fait mouche. J'ai un blues un peu louche, un murmure qui fait mouche. On frappe à ma porte, on frappe à ma porte.
Sarah Olivier, à l'instant sur Radio Pays d'Hérault, elle est à Pézenas le vendredi 26 avril. Alors, Dany Lapointe, j'ai envie aussi de te dire, toujours peu de voix féminines. Hein. C'est plus difficile ou pas à programmer à...
Bah non. Après, je sais pas.
Les années passent et on fait souvent ce constat.
Non, mais alors là, quand même, je trouve qu'il y a Sarah Olivier, il y a Evelyne Gallet, il y a Elsa Gelly. Il y a des chanteuses sur l'Ojo aussi, donc bon, il y en a moins que des hommes, mais il y en a quand même. Et puis en plus, elles en valent deux, celles qui sont là.
Nouvel extrait d'un autre artiste hors du commun, il s'appelle Zob, en concert à midi le samedi 27 avril, concert gratuit, place Gambetta, extrait, puis nous serons avec lui juste après en ligne.
C'est la chienlit, je mets mes chaussons de hip-hop, avale mon sirop pour la tour, au cou montré, une chasseur, accroche ma légion d'honneur et c'est parti pour le conflit. Dopé au fait confit, produit non garanti, j'aborde des thèmes périmés comme la réforme du périnée. Je réouvre le débat sur la peine de mort, sur le banc des accusés, ceux qui accusent à tort. Dans le milieu, mon petit nom, c'est tard d'abord. Allez, la boue est finie, rallumez l'halogène, tout le monde cul nu, je vous en prie, pas de gêne. Les innocents seront blanchis selon les règles de mon art pour les coupables. Pas de peau, c'est direction de placard.
Merci beaucoup, Dany Lapointe.
Merci de m'avoir invité.
On a hâte de découvrir en live la programmation de cette 14e édition. Allez visiter donc le site internet si vous voulez en savoir davantage. Et puis un numéro de téléphone au cas où, 04 67 210 287. À très vite, au revoir.
Au revoir.
Et puis juste avant de se quitter, un grand merci à Colin Boucher de Radio Pays d'Hérault qui a réalisé la technique, le montage et la mise en onde de cette émission. Au revoir à tous, oui. À bientôt, bon week-end.
Et en attendant le week-end, eh bien non, c'est demain que démarrera le Printival, donc des rendez-vous sur les ondes de divergence avec l'émission réalisée quotidiennement. Ce sera le lendemain à 15h, ce sera le jour même à 18h sur RPH si vous écoutez les ondes de Radio Pays d'Hérault. Dans une poignée de minutes qu'on va passer avec une bande-son que certains d'entre vous reconnaîtront comme étant celle de Bad Toys 2, un petit court-métrage où les jouets font n'importe quoi, eh bien c'est la directrice du Festival international du film d'animation de Bayard que nous aurons au téléphone Maïté Doligez.
Alerte à toutes les unités du secteur 9. Braquage signalé à la centrale banque. Les braqueurs ont pris la fuite sur Rodeo Drive au moyen d'un grand van blanc et rouge, vitre teintée noire.
C'est bon, on s'en occupe.
Oh oh, ici Fisher et Tommy, on se dirige vers Rodeo Drive.
Une poursuite, ça faisait longtemps.
Faut rattraper l'autoroute. Où est-ce qu'on est là?
Je sais pas trop, mais il y a du soleil, des palmiers. C'est plutôt cool.
Ok, et sur le GPS, il y a quoi?
On passe devant la bibliothèque. Parfait, je connais un raccourci.
Près de la bibliothèque, t'es sûr?
Oui, oui.
Quoi? Non, non.
Est-ce...
Non!
Et oui, une course poursuite endiablée pour évoquer ce festival qui, du 24 au 28 avril, vont servir des courts moyens ou autres métrages pour tous les âges et tous les horizons, mais aussi des ateliers pour s'initier à l'art délicat de l'animation. C'est le Festival international du film d'animation de Bayargues. Et pour en parler, Maïté Doligez est avec nous, directrice du festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce festival bien commence à être, on va dire, un festival mûr, puisque c'est la combientième édition, la 13e ou 14e, si je ne m'abuse ?
Non.
Non, autant pour moi.
En fait, le festival de cinéma d'animation de Bayargues a 28 ans.
Ah oui, oui.
Voilà, la prochaine édition se tiendra, le Festival International se tient chaque année en novembre. Et depuis 2 ans, nous faisons des rencontres, le temps d'un week-end très très animé. Et là, c'est la 2e édition du Printemps de l'Anime.
Voilà, alors j'imagine beaucoup de rendez-vous, beaucoup de films à la programmation de cette édition du festival.
Oui, oui, oui. Un peu plus d'une 50aine en fait de courts-métrages vont passer, 2 films inédits, dont une avant-première, un film coréen, et en partenariat avec Cinéplan, le film Le Jour des Corneilles que toute l'équipe avait vraiment adoré à Annecy l'année dernière.
Voilà, là, Le Jour des Corneilles, ce sera dimanche 28, c'est un long métrage.
Voilà, c'est un long métrage dimanche 28. L'avant-première, c'est le film coréen Green Day qui sera samedi 27 à 18h. Encore un inédit qui nous vient, lui, du Japon, Voyage vers Agartha, qui sera diffusé le vendredi 26 à 18h aussi. Mmh. Et plus après, ben, pas mal de courts-métrages, puisque j'ai entendu le son de l'excellent Bad Toys 2.
Oui.
Voilà, en introduction.
Alors, l'ouverture du... Oui, voilà, l'ouverture du festival sur les chapeaux de roue, ce sera donc demain, mercredi 24, à 16h.
Exactement, avec un ciné-concert en avant-première aussi. Le spectacle sera dans la salle comme au premier temps du cinéma. Mmh.
Le ciné-concert qui est un genre qui est revenu à la mode depuis quelques années.
Oui, oui, oui. En fait, beaucoup de musiciens aiment le côté festif et le côté aussi création en direct, ce que leur offre en fait le travail autour des premiers films de cinéma muet et ce que leur offre encore plus le cinéma d'animation avec des personnages très cartoon.
Un cinéma d'animation qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas l'apanage, on va dire, du continent asiatique, même si c'est vrai qu'on peut souligner l'apport de créativité, d'imagination qu'il y a dans le manga. On pense aux grands noms qui ont marqué ces 10 dernières années, mais j'imagine partout sur la planète, des gens produisent du film d'animation.
Oui, oui, du film d'animation de qualité. D'ailleurs, là, notre festival, c'est vrai qu'on a deux films asiatiques et le reste étant des films venant de tous les horizons. Vous avez des petits courts persans qui viennent d'Iran. L'Iran est un des pays qui produit les plus jolis films d'animation, en tout cas parmi les plus jolis films d'animation orientés jeune public, très très jeune public. Voilà, ça change de ce que l'on a l'habitude de voir, ou des séries télévisées pour enfants, c'est de très belles factures, très poétiques. En France, l'animation y est excellente depuis toujours, et puis après des pays comme le Canada, et puis bien d'autres aussi, comme la Suisse, voilà.
Alors le film d'animation, ce sont aussi des techniques multiples, parfois d'ailleurs utilisées simultanément dans un même film, des techniques aussi comme on l'a vu avec le grand succès mondial de South Park, là c'est la technique du découpage papier et de l'animation image par image qui fera l'objet d'ailleurs d'un atelier.
Voilà, exactement. Nous avons 2 ateliers en ce moment au festival, un atelier de pré-cinéma pour apprendre un petit peu justement les jouets optiques, un petit peu le cinéma d'animation, comment ça marche, l'image par image, et un stage d'animation pour apprendre à faire un film d'animation en papier découpé justement. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant du papier découpé, on va passer en fait un très très joli film de Cadel Russell, de Georges Duning, qui est sorti en 1946. Et Georges Duning, en fait, c'est le fameux réalisateur de The Yellow Submarine. Et il y a d'autres techniques en fait de cinéma d'animation, parce que l'animation, effectivement, c'est multiforme, multitechnique, et c'est aussi multigenre. On peut retrouver de la série Z, presque du documentaire, des films pour enfants, des films pour adultes, parce que ce n'est pas que pour les enfants. Et on va passer aussi un film excellent qui s'appelle On a sorti la grima de Carlo Voghere, qui reprend le célèbre air d'opéra, et c'est de la pixilation, c'est-à-dire c'est des objets qui sont animés. Et là, c'est un poisson qui chante désespérément en train de se faire frire dans une poêle. Enfin, c'est excellent.
Pour revenir à ces ateliers découvertes, ils seront animés par Jean-Philippe Salvadori et André Akis, qui sont des professionnels du cinéma d'animation. Chaque année, vous arrivez à trouver des professionnels qui sont prêts à jouer le jeu de l'atelier ?
Oui, en fait, il y a pas mal de professionnels qui font des ateliers de cinéma d'animation. Donc, c'est intéressant en fait d'avoir des réalisateurs qui viennent parler de leur art et puis montrer en fait toutes les petits trucs pour bien réaliser. Nous avons de la chance hein, dans la région. Nous avons un excellent réalisateur, Bernard Palacio, qui fait à la Fabrique Association à Saint-Laurent-le-Minier et qui fait d'excellents ateliers aussi. André Akis, qui revient très régulièrement au sein du festival. On en est très heureux pour animer des ateliers. Et puis on avait eu en 2009 Bill Plimpton, le grand réalisateur américain, qui lui était venu pas faire un atelier, mais faire une masterclass à destination des étudiants en cinéma pour leur apprendre comment faire des films lorsqu'on sort en fait d'une école. Voilà. Mmh.
Alors, on précise aussi que le dimanche 28, ce sera le moment de produire ce qui aura été réalisé pendant ces ateliers. Ça, c'est bien pour les participants de voir finalement leur travail projeté à la fin du festival.
Exactement, parce que c'est beaucoup, l'animation c'est beaucoup de temps et on travaille sur des petits bons titres qui font moins d'un mètre, donc voir après son animation sur grand écran, c'est vraiment ce qui va les intéresser et les interpeller.
Pour...
On va projeter ça en clôture du festival, tous les ateliers passeront.
Pour parler un petit peu chiffres, combien de films sont projetés dans cette édition du festival et combien de nationalités sont représentées ? Est-ce que vous en avez une idée ?
Oui, à peu près une cinquantaine en fait, une cinquantaine de films sur ces trois jours et une dizaine de nationalités à peu près. Pure, une dizaine de nationalités. Après, on va tomber sur des coproductions parce que le cinéma d'animation, en fait, après, là, on va rentrer dans le sujet économique, mais dans le cinéma d'animation pour est un cinéma qui demande énormément de moyens financiers, en tout cas, pas mal de moyens financiers parce qu'il demande beaucoup plus de temps de production qu'un long métrage. Pour vous donner une idée, un Walt Disney ou n'importe quel long métrage que l'on voit ou n'importe quel court métrage, il y a à peu près une minute d'animation faite par jour. Et c'est déjà beaucoup.
Donc, oui,
voilà, donc en fait, il y a beaucoup de coproductions en fait. Donc il y a beaucoup de pays. La Belgique va s'associer à la Suisse et à la France. Donc il y a énormément de coproductions avec l'ONF aussi au Canada, qui est l'un des plus grands studios de cinéma d'animation au monde et qui aide à la coproduction mondiale en fait. Je pense que rares sont les très grands réalisateurs qui n'ont pas été faire un jour leur film à l'ONF.
En termes de fréquentation, depuis ces dernières années, est-ce qu'on constate une hausse ou une stabilisation ?
Alors, ça va dépendre, en fait. On a une hausse pour tout ce qui concerne les baby-cours et les films pour adultes. Et une stabilisation pour les mangas, parce que je pense que les mangas, il y en a de plus en plus en salle et on peut aussi en découvrir. Voilà.
Les mangas, là on pense au long métrage, parce que c'est vrai que ce qui a marqué les esprits dans les années 80-90, c'était on va dire toutes les séries mangas qui passaient à la télévision où des fois on se demandait si c'était vraiment de l'animation parce qu'on avait finalement un plan fixe sur un visage exorbité qui restait comme ça pendant 5 secondes et puis tout le temps les mêmes cinématiques qui revenaient. Alors je pense qu'à l'époque c'était essentiellement pour économiser de l'argent que les studios produisaient des séries comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense manga, on pense à des grands noms, à des longs métrages, à des choses beaucoup plus esthétiques.
Oui, complètement, comme Isao Takahata, Miyazaki, et puis bien d'autres. Oui, puis c'est encore un des lieux communs de ce cinéma-là, qui est l'animation, de dire l'animation japonaise, ce n'est que les séries. Ben non, l'animation japonaise, ce n'est pas que les séries, ce n'est pas que du court-métrage de série, c'est peut-être aussi du court-métrage d'auteur. Il y a un très grand réalisateur qui s'appelle Yamamura, qui a fait des courts-métrages, enfin, qui produit encore des courts-métrages de très très grande qualité, de très grande facture. Nous, dans la programmation de courts-métrages que l'on fait chaque année, bon, il n'y en a pas dans cette édition, mais il y en aura en fait pour l'édition de novembre. On a toujours des courts-métrages qui nous viennent du Japon et qui sont de pure merveille et qui ne ressemblent pas forcément à l'archétype de la, enfin, qui ne ressemblent pas du tout, on va dire, à l'archétype de cinéma, de série qu'on a l'habitude en fait de voir. D'ailleurs, j'engage en fait un petit peu tout le monde à pianoter et à regarder sur internet La Maison en Petit Cube de Kunio Kato, qui a été multiprimé dans tous les festivals, qui a reçu aussi un prix. Le livre est sorti très récemment aussi pour la jeunesse, qui a reçu un prix jeunesse. Voilà, le cinéma japonais, c'est aussi ça, et le cinéma coréen, aussi le cinéma asiatique, fait des choses très très artistiques.
On rappelle que sur internet, c'est festivalbayargues.fr, tout attaché. Maïté Deligier, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente 28e édition, donc pour pas me gourer cette fois-ci. Et puis, on conseille aux gens de réserver parce que bah, voilà, y a une salle de cinéma, ça n'est pas une jauge extensible à l'infini. Et puis, on aura sans doute l'occasion de réaborder l'édition de novembre.
Voilà, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Et on se quitte avec un petit extrait d'une bande-son d'un cours intitulé « J'ai faim ».
C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ikuk. Ikuk a un appétit féroce.
Il ne pense à rien d'autre qu'à manger.
J'ai faim.
Tiens.
J'ai encore faim.
Voilà.
J'ai encore faim.
Tiens.
J'ai encore faim.
Sa maman a bien du mal à le nourrir.
J'ai encore faim.
Un jour, sa maman se met en colère.
J'en ai assez. Débrouille-toi pour remplir ton estomac.
Alors, Ikuk
s'en va